chers auditeurs, chers amis de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai eu l'ambition de vous offrir un menu roboratif pour cette émission du début juin. En effet, je vais inviter à s'exprimer tour à tour Philippe Dounaïef. Philippe Dounaïef représente le chœur Montjoie Saint-Denis. Et d'autre part, dans l'ordre alphabétique, j'ai invité également Bruno Gollnisch, délégué général du Front National, député européen. Et nous allons nous entretenir avec lui de sa conception de la des modifications institutionnelles actuelles, institutionnelles non pas dans la lettre, mais en tous les cas dans l'esprit. Ceci à partir d'un très remarquable essai d'Olivier Pinault de Villechenon, paru aux éditions L'Harmattan. Et alors, pour vous permettre, chers auditeurs, car je sais que vous serez nombreux également à vouloir poser des questions à Bruno Gollnisch, je commencerai la première partie de cette émission par le cœur, Montjoie Saint-Denis, afin que vous ayez le temps de rédiger et de me faire parvenir vos messages. Et puis, bien évidemment, comme à l'accoutumée, Bénédicte qui m'assiste, et puis enfin, vous le savez, comme à chaque émission, Jean de La Fontaine, dont j'ai retenu comme fable cette fois-ci, les deux coqs, dont je vous donne lecture. Deux coqs vivaient en paix, une poule survint, et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis Troie, et c'est de toi que vint cette querelle envenimée, où du sang des dieux même on vit le xanthe teint. Longtemps entre nos coqs le combat se maintint, le bruit s'en répandit par tout le voisinage, la gent qui porte crête au spectacle accouru, plus d'une Hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut, il alla se cacher au fond de sa retraite. Pleura sa gloire et ses amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire, tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser qu'elle caquait, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille, défions-nous du sort et prenons garde à nous après le gain d'une bataille. Voici pour cette fable de Jean de La Fontaine. Je vous en laisse analyser la morale. Et maintenant, je vais passer...
Plus brièvement, on pourrait dire, la roche tarpéienne est proche du Capitole.
Tout à fait. Maintenant, je vais aborder la première partie de cette émission avec notre ami Philippe Dounaïef, qui a été chargé par Jean Carnoux de représenter le chœur Montjoie Saint-Denis. Mais enfin, Philippe Dounaïef et moi-même, c'est une très très vieille amitié. Plus que trentenaire, mon cher Philippe.
On compte plus.
C'est plus de 40 ans même.
On compte plus.
Ceci parce que je voudrais signaler aux auditeurs de Radio Courtoisie, dans le cadre du Cercle Renaissance, nous organisons le 21 juin prochain la fête de la musique. D'ailleurs, ça permettra de faire de la musique sans être poursuivi par les voisins. Nous organisons à Paris, dans un lieu tout à fait étrange, il s'agit d'une ancienne briqueterie qui se trouve dans le 17e arrondissement, une espèce de hall, si vous préférez, enfin d'entrepôt, mais décoré pour la circonstance. Nous recevrons pour un dîner amical et une soirée récréative le chœur Montjoie Saint-Denis sur le thème « La vigne et le vin ». Et je vous avise, qu'on se le dise, que l'on chantera et que l'on dansera. Si donc il y a des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont...
Est-ce que l'on boira un peu?
Très...
Avec modération.
Oui, c'est notre ami Philippe Dounaïef qui distribuera ici présent, qui portera la vive bouteille. Donc, et avec un tel thème, j'imagine que l'on boira, mais comme on est dans Paris intramuros, on pourra revenir par taxi ou par métro. Donc voilà, ça se passera le 21 juin. Si vous êtes intéressé par une aussi sympathique soirée, dîner, repas, chant, tout le monde aura les textes des chants d'ailleurs pour les reprendre en chœur, on dansera, etc. Vous pouvez prendre contact avec le Cercle Renaissance dont je vous rappelle l'adresse, 138 rue de Tocqueville, Paris 17e. Je vous en donne le téléphone 01 42 27 48 22. Je vous rappelle qu'il y a un site internet cerclerenaissance.info. La participation aux frais de la soirée est de 45 euros. Simplement, je voudrais aviser les sympathiques auditeurs de Radio Courtoisie, puisque cette soirée est ouverte non seulement aux membres du Sacre-Naissance, mais également ouverte aux auditeurs de Radio Courtoisie, que nous sommes limités à une centaine de convives et que par voie de conséquence, je ne saurais suffisamment leur recommander de téléphoner avant au Sacre-Naissance, juste avant que d'envoyer leur confirmation avec leur chèque. Donc voici pour cette sympathique activité, et je me retourne tout de suite vers Philippe Dounaïef. Mon cher Philippe, parlez-nous un petit peu du cœur Montjoie Saint-Denis, depuis combien de temps il existe, et qu'est-ce que c'est que cette amitié, non seulement que l'on voit dans le cœur, dans les gammes, mais qui va bien au-delà.
Alors cette amitié, bien sûr, c'est pérennité, c'est foi, c'est transmission d'héritage, c'est quelque chose qui a plusieurs facettes. À l'origine, c'est-à-dire il y a plus de 25 ans, Jacques Arnaud, qui à l'époque était libéré de ses obligations militaires de la cavalerie, officier de réserve, qui n'était pas encore père de famille, remarquait qu'il nous manquait un petit peu de discographie relative à ce qu'on était habitué à chanter en camp scout ou en camp militant, et lui était très axé, très pris à l'époque par le combat contre le communisme. Il a eu quelques moments de gloire plus ou moins volontaires dans ce combat solidariste où beaucoup de nos camarades encore présents ou malheureusement décédés militaient avec lui, et il a eu cette idée de pérenniser cette tradition, ce patrimoine de chant permettant en particulier à la jeune génération de les apprendre pour sortir de ce qui était à l'époque déjà assez ringard et qui allait devenir à son apogée la Starac maintenant. Enfin, je ne suis qu'un exemple, mais c'est pas ça qui manque. Donc on avait...
Car ce sont des chants de tradition française.
Alors la tradition n'étant pas par définition quelque chose de statique, puisque les créations dans le patrimoine du chœur qui doit s'élever à 350 ou 400 chants, les créations sont assez nombreuses, elles sont conjoncturelles. Je prends le cas de l'attentat du Drakkar qui a donné lieu à la création...
À Beyrouth, au Liban.
Mais voilà, Jacques avait composé à ce moment-là un chant en hommage aux soldats tombés au Drakkar. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a cette création permanente qui fait que la tradition n'est pas figée comme on peut parfois l'imaginer. Donc ça a commencé par Chant d'Europe. Il y a eu le chant du chantier de jeunesse aussi, mais c'était déjà un peu antérieur. Et les chants d'Europe qui ont eu un succès qui a fait que il y a eu Chant d'Europe 2, 3, 4, 5, bon... on s'est compté jusqu'à... Ensuite, l'Europe progressant dans les mentalités, on a appelé ça Chant de France, parce que Chant d'Europe, ça devenait aussi un peu banal. Donc on a eu les Chants de France qui montent jusqu'à 11 ou 12. Et vous parliez tout à l'heure d'aspect ludique des chants de la vigne et du vin. En effet, il y a eu en aparté, il y a eu des chants plus spécifiques. Et il y a eu un album sur la marine en bois, il y a eu un album sur la vigne et le vin. Alors il faut savoir que ces albums au départ étaient vinyles, de vinyles ils sont passés en cassette, de cassette ils sont passés en CD, mais ça nécessitait une masterisation, une numérisation de l'enregistrement, donc recréation de nouveaux albums. Il faut savoir que tous les membres du Chœur Montjoie sont des gens qui sont bénévoles, qui ont un métier... Et on essaie de s'en occuper du mieux que l'on peut. Donc création de livrets, recherche de documents, graphisme, montage, correction. Les corrections, c'est quelque chose qui est assez épuisant aussi parce qu'on oublie toujours quelque chose. Ponctuation, mise en page propre, illustration, de façon à présenter un CD muni d'un livret qui soit attractif.
Tout à fait.
Avec les préfaciers sélectionnés, puisque la dernière édition du Champara a été préfacée par le commandant de Noix de Saint-Marc. Nous avons Roger Lindre qui a préfacé aussi notre album qui est Chant de France 11. Le révérend Père Arguark a préfacé les chants d'enfants, les chants de France 9. Donc nous avons comme ça, dans la mesure du possible, une qualité d'édition qui ne fait que s'améliorer. Donc depuis le temps, évidemment, bientôt 30 ans, ça représente des jeunes libérés des obligations militaires qui étaient célibataires, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui sont maintenant grands-parents parfois. Donc tout cela évolue, la roue tourne, mais les vieux sont toujours là pour ceux qui n'ont pas disparu. Il y a parfois un petit passage à vide quelques années après le mariage, pendant un an ou deux, interdiction de sortir.
Le surtout, temps de se remettre de ses émotions.
Voilà, surtout pour rentrer dans un état proche de l'Ohio, donc il y a nécessité d'être un petit peu gardé à la maison. Et ensuite, certains prétextes arrivent à s'échapper à nouveau, donc on retrouve nos anciens qui reviennent, et on continue, dans la mesure du possible, à animer, alors que ce soit le 1er mai, que ce soit la fête à Bébert, que ce soit...
Hier encore, l'excellente fête du Cercle National des Combattants, il y avait une très belle messe traditionnelle animée par le chœur Montjoie Saint-Denis.
Alors, il y a eu la messe et puis le déjeuner aussi, où l'accent était davantage militaire que durant l'office.
Alors mon cher Philippe, je voudrais rappeler que, peut-être ne le savez-vous pas, que j'ai l'honneur d'être l'un des successeurs à ce micro du commandant Guillaume, c'est le crabe tambour, et je ne saurais ne pas rappeler que lors des obsèques du commandant Guillaume, ce fut sans doute votre apogée, parce que le chœur Montjoie Saint-Denis, dans cette extraordinaire chapelle royale du Val-de-Grâce, devant une foule impressionnante, puisque il y avait plus de 1000 personnes en dehors de l'église, en plus d'une église archicomble, vous avez entonné non seulement des chants sacrés, bien évidemment, mais des chants de marine également, par référence au fait que le commandant Guillaume avait été lieutenant de vaisseau. C'était particulièrement émouvant, et je crois que c'est vous avez su arracher des larmes, et des larmes non seulement à un public, je dirais, acquis, mais également à des personnages surgis de l'ombre, d'autrefois qu'on ne revoyait plus, des anciens baroudeurs, des anciens mercenaires, toutes ces personnes, ces soldats perdus qu'avait connus que le commandant Guillaume, et qui étaient dans l'église avec leur visage buriné. Eh bien, vous avez su transmettre une intense émotion. Je me devais de le rappeler.
Confidence pour confidence, l'émotion était aussi dans le cœur, puisque c'est pas non plus les larmes qui manquaient, ne serait-ce que du fait de l'ambiance très très particulière de cette splendide chapelle, mais en plus, le fait d'accompagner le commandant Guillaume, qui était quand même un personnage tout à fait hors du commun, était pour nous un honneur extraordinaire. Et c'est vrai que ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'être présents dans cette chapelle où nous sommes, je vais pas dire invités permanents, mais néanmoins où nous pouvons venir à l'occasion. Mais là, c'était une situation tout à fait exceptionnelle, et j'avoue que ça a été un moment très, 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 très fort.
Alors, juste à ce stade de la conversation, puisque nous évoquons ce devoir de mémoire qu'entretient, et il faut l'en remercier, le chœur Montjoie Saint-Denis, je vais vous donner quelques informations, chers auditeurs. Je vous signale que notre ami Pierre Descaves, que j'ai reçu à ce micro, voici deux émissions, je crois, dédicacera son ouvrage La Salsa des Cloportes, dans lequel il raconte sa vie, et y compris sa vie combattante, à tout point de vue. Livre d'ailleurs qui s'est trouvé épuisé lors de la signature de Radio Courtoisie, car il y avait deux ou trois fois plus de monde qui a demandé la dédicace qu'il n'y avait d'ouvrage disponible. Eh bien, Pierre Descaves, sachez-le, dites-le autour de vous, dédicacera son ouvrage le samedi 9 juin à la Licorne Bleue, dont je vous donne l'adresse, 3 bis rue Jules Vallès à Paris, métro Charenton, le samedi 9 juin de 17h à 19h. Alors voici donc pour une signature de Radio Courtoisie, toujours dans le même esprit de fidélité, de mémoire, de notre devoir de mémoire, à l'initiative de Michel Fischoff, qui est maire adjoint de Vence, aura lieu le 5 juillet à Vence, dans les Alpes-Maritimes, une journée qui sera dédiée au drame des Pieds Noirs. Sur le thème « Si la vérité vous intéresse, si vous voulez comprendre l'histoire de l'Algérie des Pieds Noirs », nous vous proposons d'assister au film témoignage de Gilles Pérès, diffusé sur FR3. Ce film sera diffusé à 15h au Théâtre des Cadrans Solaires, route de Saint-Paul à Vence. Et il y aura précédemment un déjeuner avec les Pieds Noirs, toutes ces Français meurtris. Et si vous désirez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire avant le 26 juin 2007. Je vous en donne l'adresse, au Resto des Copains, tennis municipal de Vence, chemin de la Plaine, 06 140, Vence. Si d'aventure vous désiriez avoir plus de détails, sachez que Madame Fischoff, Michel Fischoff, dont d'ailleurs j'étais le témoin de mariage autrefois, est maire adjoint de Vence. Donc voilà pour nos amis des Alpes-Maritimes. Troisième devoir de mémoire, notre ami Daniel Ancelet, qui est également patron d'émission à Radio Courtoisie, qui anime l'émission de poésie, recevra ici à ce micro, et c'est pour cela que je vous demande de l'écouter tout particulièrement, le samedi 30 juin prochain, recevra des amis du Cercle Renaissance. Et cette émission sera animée... Ah non, cette émission-là sera animée par Françoise Knaps, dont l'époux, aujourd'hui disparu malheureusement et depuis peu, avait été lauréat du prix Renaissance de poésie. Mais Madame Françoise Knaps recevra la fille de Yves de Verdillac, c'est-à-dire la fille de Serge Dalens, et cette émission sera consacrée à une évocation, sera consacrée entièrement à une émission de, sur Serge Dalens, qui fut le premier lauréat du prix Renaissance des Lettres, qui lui a été remis par Virgile Georgiou. Serge Dalens, dont le véritable nom était Yves de Verdillac, il fut premier substitut des Hauts-de-Seine, c'était un magistrat, c'est à lui en tous les cas que l'on doit la création de l'extraordinaire collection Signes de Piste, et puis évidemment toute la série du Prince Éric qu'il avait écrit sous le pseudonyme de Serge Dalens. Il a écrit d'autres ouvrages sous d'autres pseudonymes, notamment Mick Fondal en liaison avec Jean-Louis Foncine, Dalens, Foncine, Fondal, et bien d'autres ouvrages. En tous les cas, c'est sa fille Emmanuelle de Verdillac qui évoquera la mémoire de son père le samedi 30 juin prochain au micro de Radio Courtoisie. Cette émission sera diffusée de 12h à 13h30. Voici donc pour trois évocations de devoirs de mémoire. Je me retourne à nouveau, cependant que les auditeurs certainement commencent à rédiger, à envoyer des messages à Bruno Gönlich, je me retourne à nouveau vers Philippe Dounaïef. Cette aventure de Radio Courtoisie va se poursuivre. Vous avez l'année dernière animé dans le cadre du Cercle Renaissance la fête de la musique sur le thème des chants de la marine à voile. Ce sera cette année sur la vigne et le vin. Je suis également extraordinairement, enthousiaste devant le fait que ce sont les générations qui se succèdent au sein du cœur Mont-Jean Saint-Denis.
Dieu merci. Mais effectivement, Michel, vous parliez tout à l'heure de l'ancienne briqueterie du 17e arrondissement, qui a été une découverte assez épatante, puisqu'on a en effet remarqué qu'il y avait dans cette courette une sorte d'usine désaffectée qui servait de terrain de répétition pour certaines troupes théâtrales. Et il faut reconnaître que c'était tout à fait intéressant de pouvoir s'installer là-dedans. C'était un peu sommaire, c'était pas très luxueux, mais le résultat était à l'arrivée, et c'est avec bonheur et plaisir que cette année nous remettons ça, et l'an prochain, en changeant sans doute de thème, il est vraisemblable que nous soyons à nouveau disponibles. Dans la mesure où nous sommes disponibles, c'est avec bonheur, n'est-ce pas, que nous sommes proches du Cercle Renaissance, pour diverses raisons, puisque je rappellerai tout de même que Michel de Rosteland nous a même à une époque prêté un local pour que l'on puisse répéter, à une époque où le centre Charlier déménageait de la rue Calmels où nous avions nos habitudes, et on était un petit peu orphelin de lieu de répétition. Et Michel de Rosteland nous a très gentiment proposé un local où on n'est pas resté très longtemps parce que sur le plan pratique, il y avait quelques incompatibilités, mais la générosité fondamentale était au rendez-vous avec, évidemment, l'amitié qui l'accompagne. Donc je rappelle tout de même que les CD et éventuellement cassettes, les reliquats de cassettes du cœur montjoie,
où peut-on les commander,
sont encore disponibles, alors, dans quelques bonnes boutiques parisiennes, type les librairies du Ken, enfin... On connaît nos points de chute habituels.
Mais vous avez également une adresse.
Et nous avons une adresse qui est le siège social de l'association, qui est une association 1901, comme chacun ne sait pas, qui se trouve donc au restaurant qui s'appelle chez Valérie, qui se trouve 21, comme 3 fois 7, rue Campagne Première, dans le 14e arrondissement. Alors c'est une adresse postale, 75014, donc, cœur Mont-Jean-Saint-Denis, chez Valérie, 75014 Paris, au 21 rue Campagne Première. Donc le simple fait d'écrire là-bas vous permettra d'obtenir un catalogue qui sera à jour des éditions disponibles, parce que ça va, ça vient, et on réédite, et au fur et à mesure qu'on réédite, il y a nécessité parfois de mettre à jour le catalogue de ce qui est disponible. Et ensuite, vous passez votre commande tout simplement, et on vous gère ça le mieux que l'on peut, par courrier, à défaut de trouver nos albums donc dans nos librairies habituelles parisiennes.
Mais je voudrais dire, Philippe, que c'est le cercle des sens qui est honoré de cette amitié portée par le cœur Mont-Jean Saint-Denis, et je voudrais également que cette amitié, mais je crois qu'elle l'est déjà, elle est consubstantielle également à l'aventure de Radio Courtoisie. J'ai noté d'ailleurs que vous étiez présent d'une façon active et même suscitant l'enthousiasme à chaque grande signature de Radio Courtoisie, et ces chants de tradition, vous nous permettez de sauver justement un pan de notre tradition française, avec cette dimension poétique qui fait parfois défaut aux âmes un peu trop, blessées que nous connaissons, alors qu'on a besoin également de cet élan musical, de cet élan de poésie que vous savez susciter. J'évoque également le fait que, puisque je soulignais que le 21 juin prochain, dans le cadre du Cercle Naissance, vous animerez une soirée avec un repas, avec également des chants et de la danse sur le thème « La vigne et le vin », je ne saurais ne pas évoquer le fait que notre ami Jean-Bernard Caour d'Aspry a écrit lui-même un ouvrage qui s'appelle « La vigne et le vin, histoire, légende et symbolisme », qui est paru aux éditions Atlantica, 3 rue Séguier, Paris 6e, que l'on peut se procurer au prix de 25 €. Donc cet ouvrage, je n'aurais su l'oublier, puisque nous évoquions ce thème de la soirée que nous offrira, et je m'en réjouis par avance, le cœur Mont-Jean Saint-Denis. Mon cher Philippe, vous serez invité tout à l'heure à participer également à la deuxième partie de l'émission de notre ami, avec notre ami Bruno Gollnisch, mais d'ores et déjà, nous allons écouter un chant du cœur Mont-Jean Saint-Denis.
Quand l'ouvrier a fourni gros efforts, savez-vous bien ce qu'il rendra plus fort?
Un verre de vin. Oui, c'est la liqueur chérie, c'est le bon vin qui réjouit la vie, c'est le bon vin qui nous met tous en train. C'est le bon vin, c'est le bon vin qui réjouit la vie, c'est le bon vin, c'est le bon vin qui nous met tous en train.
Quand un chanteur a fini tous ses vers, savez-vous bien ce que son cœur espère?
Un verre de vin. Oui, c'est la liqueur chérie, c'est le bon vin qui réjouit la vie, c'est le bon vin qui nous met tous en train. C'est le bon vin, c'est le bon vin qui réjouit la vie, c'est le bon vin, c'est le bon vin qui nous met tous en train.
De vos chanteurs pour célébrer la fête, savez-vous bien ce que chacun apprête?
Un verre de vin. Oui, c'est la liqueur chérie, c'est le bon vin qui réjouit la vie, c'est le bon vin qui nous met tous en train. C'est le bon vin, c'est le bon vin qui réjouit la vie, c'est le bon vin, c'est le bon vin qui nous met tous en train. C'est le bon vin, c'est le bon vin qui réjouit la vie, c'est le bon vin, c'est le bon vin qui nous met tous en train.
Alors notre ami Philippe Dounaïef a une petite précision à apporter.
Voilà, l'extrait que vous venez d'entendre est celui qui figure sur la cassette des chants de la vigne et du vin, cassette qui n'est plus disponible, je tiens à le préciser, donc vous précipitez pas. La réédition en CD est au programme, mais comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas tout faire en même temps. Néanmoins, cet extrait n'en a que plus de valeur. Un autre extrait qui aussi est un peu connu, on parlait de Radio Courtoisie en parallèle avec le cœur, il y a un responsable d'émission qui doit s'appeler, si mémoire est bonne, Serge de Beketch, et lequel Beketch commence toujours son émission par Les Partisans Blancs, qui est un des très très vieux enregistrements du cœur, avec une orchestration qui plaît énormément, puisqu'on lui en a proposé d'autres nettement dépoussiérés et qui les a toutes refusées. Donc on est resté sur sur la version des Partisans Blancs telle qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire maintenant bien plus de 25 ans.
De toute manière, mon cher Philippe, dès lors que vous représentez, c'est extraordinaire que par souci de nos auditeurs, d'ailleurs vous voyons les uns les autres, alors que bien évidemment dans la vie civile nous tutoyons, mais si ce morceau n'a pas encore été réédité, en revanche il figure maintenant sur l'enregistrement de cette émission, et comme vous représentez très officiellement Radio Courtoisie, eh bien mes chers amis auditeurs, si vous désirez acquérir ce morceau, commandez la cassette de cette émission à Radio Courtoisie, ou le cas échéant, allez sur Internet, surfez sur le site du Front National où vous verrez certainement l'enregistrement de l'émission puisque nous en recevons le délégué général, et vous aurez de ce fait le morceau qui vient d'être joué par le cœur Mont-Jean Saint-Denis. Mais je souligne plus sérieusement que le 21 juin prochain, au soir, lors de cette soirée, il y aura également sur place, évidemment, un stand où vous pourrez acquérir toutes les productions du Chœur Montjoie Saint-Denis.
Disponible.
Disponible.
Alors, et nous avons effectivement parlé d'Internet. Il y a aussi possibilité de passer commande via Internet. Notre site, c'est www.coeur-montjoie.com.
Eh bien, nous remercions Philippe Dounaïef, mais il sera évidemment invité à participer tout au long de la suite de cette émission à nos échanges. Et maintenant, nous allons aborder avec Bruno Gollnisch, cependant que les messages ont commencé à arriver, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission à partir d'un très remarquable essai de maître Olivier Pinault de Villechenon. C'est un nom que je vous demande de retenir. Maître Olivier Pinault de Villechenon, on lui devait déjà un premier ouvrage sur le thème « Le pouvoir illégitime » qui avait fait l'objet d'un débat au sein du Cercle Renaissance il y a une quinzaine d'années. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan un petit ouvrage très dense, un petit ouvrage de 104 pages qui s'intitule « Pourquoi changer la Ve République ?» Il pose évidemment la question institutionnelle. Et alors, l'intérêt de cette analyse, mais nous allons d'abord commencer à écouter la première réponse, premier jugement de Bruno Gollnisch, c'est qu'il propose évidemment des réformes institutionnelles dans sa troisième partie, mais cette analyse se fait à travers une lecture en juxtaposition du décalogue. Voilà, c'est un souci d'Olivier Pinault de Villechenon. Et je me tourne tout de suite vers Bruno Gollnisch. Mon cher Bruno, que suscite chez vous comme réflexion cet ouvrage ?
Mais j'ai trouvé des réflexions extrêmement intéressantes, en effet, dans cette brochure de Maître Pinault de Villechenon. En particulier, bien que la plaquette soit succincte, il y a des réflexions intéressantes sur le plan philosophique, et notamment sur la question de la liberté et des droits de l'homme. C'est une chose intéressante parce que, je ne peux pas résumer ici, mais Maître Pinault de Villechenon distingue les libertés au sens du droit positif, c'est-à-dire de l'ensemble des règles qui sont édictées par l'autorité publique, et la liberté de la personne. Et on l'oublie un peu, ça peut choquer quelquefois que la liberté se définit aussi par l'usage que l'on en fait, qui est ordonné au bien, et que quand on en fait un mauvais usage, on la détruit. Ça peut paraître curieux parce que la plupart de nos contemporains ont une notion de la liberté qui est exclusivement réduite à la possibilité de choisir le bien ou le mal. Mais il y a un exemple évidemment typique qui est d'ailleurs cité dans la brochure, celui qui fait un usage de sa liberté, par exemple pour s'adonner à la drogue, détruit sa liberté parce qu'il se place lui-même dans une situation de dépendance.
Bon.
Il y a là un ensemble de réflexions intéressantes. Et puis il y a des réflexions plus pratiques sur le plan des réformes institutionnelles qu'exigerait la situation actuelle de notre pays. On ne sauvera pas exclusivement le pays par des réformes de la Constitution, c'est certain, mais tout de même, là je dois dire que ce que dit l'auteur rejoint ce que dit le Front National et Jean-Marie Le Pen, et d'ailleurs il plaide pour une meilleure définition du statut du chef de l'État, et notamment pour un mandat présidentiel long et non renouvelable, ce qui était notre position, et à nous seuls, nous avons été les seuls opposants au passage au quinquennat, dont on n'a pas encore tout à fait mesuré, mais dont on commence à mesurer les effets absolument pervers et destructeurs. Il est certain, par exemple, que la campagne présidentielle n'a pas été une campagne présidentielle. C'est-à-dire que l'on a absolument méconnu les véritables prérogatives du chef de l'État. Quelles sont-elles, ces prérogatives ? C'est d'assurer par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics, c'est d'être le garant de l'indépendance de la justice, de la sécurité intérieure et extérieure de l'État, et en conséquence d'être le chef des armées, et c'est aussi, au terme des articles 55 de la Constitution, celui qui négocie et qui ratifie les traités, ça ne signifie pas que le ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre soit dépourvu de toute prérogative dans ce domaine, mais ça veut dire que le chef de l'État est celui qui conduit la politique extérieure. Or, tous ces sujets, fonctionnement des institutions représentatives, indépendance de la justice, sûreté intérieure et extérieure de l'État, diplomatie, défense, armée, ces sujets ont été occultés au cours de la campagne présidentielle, et la campagne présidentielle est devenue une campagne législative, c'est-à-dire qu'on y a discuté de questions qui sont très importantes.
Une pré-campagne législative.
Absolument. On y a discuté de questions qui sont très importantes, évidemment, pour ceux qu'elles intéressent légitimement, mais de questions sociales, de questions économiques, de questions diverses. Sur la politique de la santé, par exemple, de la sécurité sociale, sur le niveau des retraites, sur toutes sortes de choses de cette nature, mais qui relèvent du gouvernement et pas directement du chef de l'État. Et alors, l'effet pervers, c'est que ça a induit une dégradation générale du débat public. Aujourd'hui, je le vérifie, nous sommes en campagne législative, et la campagne législative devient une campagne de conseillers généraux. Je ne sais pas ce qui restera d'ailleurs lors des campagnes d'élection des conseillers généraux, les élections cantonales qui s'annoncent dans quelques mois. Et c'est absolument saisissant. Je vois par exemple dans mon département, le Rhône, quand il y a des débats qui sont organisés de façon assez correcte par la presse locale, par le journal Le Progrès par exemple, par les télévisions locales, par France 3, par Télé-Lyon Métropole, etc., les candidats sont interrogés sur des sujets d'intérêt locaux qui, là encore, ne sont pas déshonorants, qui ont leur importance, mais, par exemple, dans ma circonscription, c'est le point de savoir si le chemin départemental 300 doit passer à 3 voies ou rester à 2, ou si on doit installer un nouveau stade de football à Décines, ou l'effet des nuisances sonores de l'aéroport de Saint-Exupéry. C'est une méconnaissance du travail du législateur, mais contre laquelle personne ne proteste, sous prétexte que les gens sont intéressés par les questions locales, bien sûr. Ces questions locales sont importantes, mais elles sont du ressort du Conseil général, c'est-à-dire du Conseil du département, du Conseil régional. Ce n'est pas le rôle du législateur qui est de faire la loi, en principe expression de la volonté générale, de surveiller le gouvernement, de voter le budget de l'État, etc., etc. Et je crois que c'est très grave. Alors, je ne veux pas être trop long, mais cette brochure remet les choses un peu en place, propose une meilleure définition du statut du chef de l'État, de clarifier la répartition des pouvoirs entre les deux têtes de l'exécutif, je dirais il serait temps, un recours facilité au référendum en étendant l'objet et en aménageant les voies de recours, et puis aussi s'intéresse à l'extension de la règle démocratique à un certain nombre de groupes de pression, en particulier les syndicats. Et il est certain que la situation du syndicalisme en France est détestable à l'heure actuelle et qu'il y a un effort de réflexion dans ce domaine. Et puis, non seulement redonner du pouvoir à ce que l'on appelait autrefois les corps intermédiaires, mais aussi aux familles elles-mêmes, par exemple en restaurant leur droit à la liberté de conscience dans l'enseignement, et en leur permettant, des formules comme ce que nous avons préconisé, le chèque éducation, de choisir l'éducation de leurs enfants. En résumé, je crois que cette brochure est intéressante, et je partage la plupart de ces analyses. J'y aurais personnellement ajouté un certain nombre de réflexions, peut-être relatives à la démocratie représentative. Je pense en particulier au rôle des parlementaires, l'Assemblée nationale est aujourd'hui un théâtre vide, le Sénat ne remplit plus tout à fait sa fonction, bien qu'il y ait parfois des débats de qualité. Il faut redonner vie aussi à la démocratie représentative. Ça passe sans doute par un mode de scrutin proportionnel, parce que aujourd'hui beaucoup de Français sont exclus de toute voix dans ce qu'on ose encore appeler la représentation nationale, et c'est un véritable scandale.
Tout à fait. Alors je notais pendant ce temps-là, je vais vous en donner lecture, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, parce que cela le mérite. de la quatrième de couverture, pourquoi changer la Ve République ? Oser étendre la démocratie aux syndicats, lesquels, effectivement, actuellement, s'ils sont dits représentatifs, en réalité, ne représentent qu'une infime proportion des travailleurs. Clarifier les attributions respectives du président et du premier ministre, c'est ce que vient d'évoquer Bruno Gollnisch. Élargir le champ du référendum, c'est de l'allusion en particulier au référendum d'initiative populaire. Quelques ajustements suffiraient pour que la Ve République garantisse les libertés collectives et redonne aux Français le goût de la vie politique. Comment reconnaître et faire prévaloir dans notre société les fins supérieures du pouvoir? Comment mettre fin à la dérive totalitaire de la démocratie? L'auteur nous invite à découvrir l'existence, à l'état latent dans nos institutions, d'un second principe de séparation des pouvoirs, distinct de celui légué par Montesquieu. J'ajoute in fine que Olivier Pinault de Villechenon m'a dit que son titre « Pourquoi changer la Ve République ?» n'était ni positif ni favorable au maintien de la Ve République, ni défavorable à l'éventuelle émergence d'une sixième république, mais il posait la question. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce titre ne contient pas un jugement de valeur, il a le mérite de poser la question. Il est certain, et Bruno Gollnisch vient de le souligner, que nous avons connu une période de parfaite ambiguïté, singulièrement tout au long de cette campagne qui s'est achevée et qui se poursuit d'une certaine manière dans le cadre des législatives, puisque les législatives, par le fait du quinquennat, sont étroitement liées au fait majoritaire entraîné par le scrutin présidentiel. Bénédicte, quelques rappels sur l'émission et puis quelques questions.
Oui, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelan. Ses invités sont Philippe Dornaïef, agent commercial, et représentant du cœur montjoie Saint-Denis, Bruno Gollnisch, député européen, délégué général du Front National. Alors, un auditeur, M. Gollnisch, ne pensez-vous pas qu'il serait temps de dire que le Front National est le seul parti à défendre la culture de vie? Il faut le dire bien haut, entre parenthèses, l'organiste de la messe d'hier.
Je suis... on regroupe les questions par trois, si vous voulez,
oui,
Bruno.
Volontiers.
Une deuxième question d'un auditeur pour M. Gollnisch. Pourriez-vous, cher monsieur, nous préciser, avec le talent qui est le vôtre, les relations actuelles et prochaines avec le MNR? Les propos de M. Maigret sur cette radio sont d'une qualité rare. En ces temps où l'intelligence et le cœur sont en détresse, l'apport de M. Maigret serait, à mon humble avis, vivifiant. Qu'en pensez-vous, cher monsieur, vous, dont la culture est notre cher Occident allié de l'Orient extrême? Respectueusement. Un autre auditeur, certes, le fait d'avoir un pouvoir central constitué majoritairement de personnes venant de la fonction publique ne permet pas de prendre en compte la grande diversité des problèmes d'un pays. Une représentation proportionnelle ne résoudrait pas davantage les problèmes. La seule solution est de limiter le pouvoir central à deux ou trois problèmes essentiels et de laisser les citoyens résoudre les leurs localement.
Ça fait, ce sont des sujets riches et divers. En ce qui concerne le fait de défendre la vie, j'y souscris tout à fait. Nous devons nous dire clairement en faveur de l'accueil de la vie, du respect de la vie, de la conception à son terme naturel. Personnellement, j'ai d'ailleurs été extrêmement choqué par le procès de Périgueux, par exemple, sur l'euthanasie. Je sais bien que la situation de la personne qui était malade était tout à fait douloureuse et dramatique, mais je considère qu'on a tout à fait abusé du langage, une fois de plus. C'est comme à propos de l'avortement qu'on baptise interruption de grossesse. Mon ami Michel de Rostelan avait relevé à l'époque d'ailleurs que ce qui est interrompu peut reprendre, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des interruptions définitives. Eh bien là, on a parlé à propos de l'euthanasie de la malade, d'infirmière et de médecin, et d'une femme médecin qui l'avait aidé à mourir. Je trouve ça tout à fait extraordinaire, parce que je sache, la personne n'avait rien demandé de tel, et il y a une très grosse différence, évidemment, entre le fait de s'efforcer de soulager des souffrances par exemple en administrant à un malade des analgésiques, et peut-être que l'administration de ces analgésiques abrège quelque peu les derniers moments, mais le but recherché n'a pas été de donner la mort, tandis que là on se trouvait dans le cas de l'injection d'un produit mortel. Je crois que nous sommes vraiment, c'est vrai, nous devons être les défenseurs de la vie, de la personne humaine, de la vie de la nation. Nous sommes les garants, comme je me suis efforcé de le dire hier à l'émission de Madame O'Krent, qui était un peu tardive, nous sommes les garants de la diversité, du respect des identités, et cela aussi, ça fait partie de la vie, la diversité de la création, et y compris la diversité des hommes, mis à part évidemment leur égalité ontologique devant le Créateur, mais les personnes ne sont pas équivalentes, ne sont pas interchangeables, les sociétés non plus, les hiérarchies, les peuples, les cultures, tout cela doit être évidemment défendu, du moins quand c'est ordonné au respect de valeurs universelles dans lesquelles naturellement je crois aussi. Alors en ce qui concerne la question un peu plus prosaïque sur le MNR et Bruno Maigret, je suis assez embarrassé pour répondre, très franchement, parce que je ne voudrais pas raviver des polémiques anciennes, mais j'ai été de ceux qui ont estimé, et je n'étais pas le seul, que Bruno Maigret ne s'était pas bien conduit en 1998. Voilà. Et je l'ai éprouvé moi-même dans la Fédération du Rhône et à l'échelle de l'ensemble du mouvement, et j'ai été de ceux qui ont combattu cette espèce de tour de passe-passe qui constituait à faire d'une réunion à Marignane un congrès qui n'avait pas d'existence légale du Front National et destiné à lui permettre de s'en emparer, et puis ensuite de créer un autre mouvement qui a entraîné, c'est sûr, une grande partie de nos cadres, du cadre du combat national, dont la plupart, il faut le reconnaître, s'en sont détachés par la suite. Je pense que cette opération nous a fait perdre des années très précieuses dans une pente qui était alors ascendante pour le mouvement national. Je dis cela sans intention de raviver des polémiques ou des querelles, puisque Jean-Marie Le Pen a donné lui-même l'exemple du pardon, en quelque sorte, des offenses, que je crois non seulement moralement louable, mais politiquement utile, en recevant monsieur et madame Maigret dans sa résidence à Montretout, à Saint-Cloud, et en présence de Janie, sa propre épouse. C'était un geste de réconciliation avec une thématique qui était celle de l'union patriotique. Moi, j'ai toujours considéré, et je n'étais pas le seul dans ce cas-là, avec Karl Lang et avec d'autres, qu'à partir du moment où celui qui était à la fois le candidat à l'élection présidentielle et qui était le président du Front National avait décidé de cette politique, il en assumait la responsabilité, et qu'il était de notre devoir de le suivre. Il était de notre devoir de le suivre, parce que donner et retenir ne vaut dans ce domaine. On aurait pu avoir une attitude différente, mais à partir du moment où celle-ci avait été décidée, je pense qu'il fallait s'y conformer. Cela a suscité, je le dis très franchement, des réticences, des résistances que je comprends et qui ont eu pour résultat, en quelque sorte, que cette réconciliation n'a pas pu porter tous ses effets. C'est ainsi. Il est extrêmement difficile de faire abstraction des blessures du passé. Je le constate. Personnellement, je n'ai fait aucun obstacle aux décisions de Jean-Marie Le Pen, mais je ne sais pas ce qu'il peut en être, ce qu'il peut en advenir dans le futur. Et ce n'est pas à moi, à ce stade, qu'il appartient, en tout cas, de le dire. Le dernier point, la troisième question, portait sur la fonction publique. La fonction publique, il est de fait qu'il y a une espèce de colonisation de la fonction publique et des rouages de l'État, ce qui est plus grave, par l'École nationale d'administration, dont je dois dire très clairement que c'est une école de bon niveau. C'est une école de très haut niveau. Et je connais beaucoup de gens qui critiquent l'école nationale d'administration et qui seraient ravis que leurs enfants y entrent et en réussissent le concours. Mais j'ai constaté au cours de la dernière campagne présidentielle que François Bayrou a dit qu'il faut supprimer l'école nationale d'administration. Tout le monde s'est étonné, on a dit voilà quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait original, sauf que ça fait 15 ans je crois ou 20 ans que Jean-Marie Le Pen et le Front National disent la même chose. Pourquoi ? Parce que ce qui est contestable dans ce système, c'est que l'on forme dans un même moule des gens qui sont destinés à exercer des fonctions extrêmement différentes. On ne forme pas de la même façon un ambassadeur destiné à exercer sa fonction dans des pays d'Afrique et d'Asie, d'une part, et un membre des hautes juridictions administratives, comme le Conseil d'État, qui va rester place du Palais-Royal et s'occuper de contentieux administratifs, ou un inspecteur des finances, ou un préfet. Ce sont des fonctions tout à fait différentes, qui exigent des connaissances et des spécialités différentes, et qui exigent aussi une vocation, des aptitudes humaines différentes. On se fiche complètement qu'un membre du Conseil d'État, par exemple, n'est pas d'aptitude linguistique. S'il parle mal anglais et s'il connaît ni aucune autre langue, c'est pas très grave.
En revanche, rappelez-moi combien de langues vous connaissez, mon cher Bruno.
Tu n'es pas dans ce qu'on appelle connaître. Plus ça va, plus je mesure les lacunes que j'ai dans chacune d'elles. Mais c'est vrai que ce serait mieux quand même que les ambassadeurs, nos ambassadeurs aient des connaissances. Souvent, ce sont des gens de haute qualité. Je pense en particulier à M. Pérol, par exemple, qui était ambassadeur au Japon, qui était un homme tout à fait remarquable, mais je constate que même les ambassadeurs dans ce pays, même les ambassadeurs des États-Unis ou les ambassadeurs d'Allemagne connaissent non seulement la culture, mais souvent la langue, c'est quand même un plus par rapport à certains de nos diplomates. Alors, ce sont des choses très importantes, et ce qui est grave, c'est que formant en quelque sorte des spécialistes de la généralité, dès l'âge de 22, 23, 24 ans, on a ensuite une espèce de caste qui, non seulement dispose d'un quasi-monopole des hautes fonctions publiques, mais également qui a colonisé le pouvoir législatif.
Alors justement, c'est ce qu'évoque...
Et ça, c'est grave, et je pense qu'on peut y remédier.
C'est ce qu'évoque en particulier Henri Amouroux dans un article ce matin du Figaro, soulignant qu'à certains moments, la représentation parlementaire comptait 67% de fonctionnaires. Nous-mêmes, mon cher Bruno, nous avons connu, lorsque j'y étais avec vous, une écrasante majorité de fonctionnaires et surtout très peu d'indépendants, très peu de professions libérales. C'est évidemment, pour ces professions, et le fait...
C'est vrai, et j'ai eu moi-même les deux casquettes, puisque j'étais à l'époque avocat et universitaire, avec cette différence que, précisément quand je suis devenu député, j'ai dû cesser toute activité d'avocat. C'est cela aussi qui est un problème. C'est que le fonctionnaire a la possibilité, lui, de reprendre un emploi, tandis que ceux de nos collègues dans le groupe, je crois, très brillant, que nous formions à l'Assemblée nationale, le groupe d'une trentaine de députés qui a été certainement l'un des plus actifs, l'un des plus présents dans les débats, l'un des plus productifs par ses propositions de loi, nous avions beaucoup de professions libérales, nous avions beaucoup d'avocats, de médecins, de chirurgiens dentistes, mais pour lesquels, en règle générale, le passage à l'Assemblée a été ravageur sur le plan professionnel, parce que M. Chirac et la réforme du mode de scrutin aidant, il y a là il y avait des hommes et des femmes de qualité qui ont été députés pendant 2 ans et demi, compte tenu de la dissolution de 1988 par François Mitterrand. Et bien, en 2 ans et demi, il est évident qu'une une entreprise ou un cabinet profession libérale, et bien ça a le temps de couler.
Alors, d'ailleurs, je voudrais, avant que... Mais je vous remercie beaucoup de la précision de vos réponses. Ce qu'il y a, c'est que si vous répondez avec autant de précision...
Je vais m'efforcer d'être plus bref.
Ça pourra continuer, au moins jusqu'à ce soir, au stade actuel des questions posées.
Bref.
Simplement, je voulais dire, dans la suite de ce que vous évoquiez, qu'avant d'imposer la parité avec ses conséquences de difficultés pour la législative et autres scrutins, ce qui n'est d'ailleurs pas faire injure aux hommes ou aux femmes, d'ailleurs, il aurait valu infiniment plus pour le moins moins limiter le nombre de personnes issues de la fonction publique dans le pouvoir législatif. C'est évidemment une, comment dire, ça a un autre sérieux et une autre importance que cette illusoire parité qui a été imposée par les gouvernements. Il est évident que dès lors que le pouvoir législatif procède pour la plupart de ses membres du pouvoir exécutif, ça vicie le pouvoir législatif.
Oui. Imposé et non respecté, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que les partis qui ont fait voter ces quotas sexuels, hein, pour tout dire, et ceux qui, ne comme l'UMP ne l'ayant pas voté, mais ne l'ont pas abrogé, par conséquent le considèrent comme une législation devant être respectée, ne le respectent pas. Dans mon département, le département du Rhône, sur 14 circonscriptions, les 14 candidats de l'UMP sont des hommes. Tandis que nous avons 8 dames au Front National pour 6 candidats masculins et une parfaite parité au plan régional et national.
Eh bien, je me tourne vers Bénédicte pour la suite des questions.
Alors, je réponds à une auditrice. Je vous donne le numéro de téléphone du Cercle Renaissance très lentement. 01 42 27 48 22. Monsieur Gollnisch, malgré l'accord intervenu entre Monsieur Maigret et Monsieur Le Pen concernant l'alliance patriotique, Marine Le Pen et Monsieur Alliot, refusent toute alliance avec Monsieur Maigret. Ce dernier ne se représente pas contre les membres du Front National, alors que Monsieur Jean-Marie Le Pen représente un candidat contre Monsieur Maigret dans sa circonscription. À Asnières, même scénario, un Front National se présente contre un MNR.
Oui, j'ai déjà un peu répondu à cette question, je vais être plus bref. Le candidat du Front National ne se présente pas contre Bruno Maigret. Il se présente sur la circonscription, sur cette circonscription des Bouches-du-Rhône, qui est une circonscription dans laquelle le Front National a toujours fait de bons résultats. Pour le reste, je crois avoir déjà répondu.
Oui. Un auditeur, ne pensez-vous pas que la sortie, entre autres, de Jean-Marie Le Pen sur les origines de Sarkozy a fait perdre des voix au Front National? Monsieur Albert Salon a dit que personne au Front National n'est voulu venir dans son émission sur la défense de la langue française. Monsieur Salon a reçu De Villiers, Dupont, Saint-Aignan.
En ce qui concerne la deuxième question, personne du Front National n'a voulu venir à une émission sur la langue française. Je suis un peu étonné.
Ça me paraît surprenant. D'autant qu'Albert Salon, l'ambassadeur Salon, aurait pu même téléphoner, me sachant patron de l'émission.
Là, je crois, moi, je suis tout à fait disponible pour venir, en fonction de mon emploi du temps, bien sûr, ou pour demander à un de mes collègues de venir et dans cette à une émission de Monsieur l'ambassadeur Salon sur la défense de la langue française, qui nous paraît un thème tout à fait porteur, oui. Donc là, je pense que c'est un malentendu. La première partie de la question, c'était... Excusez-moi.
Ne pensez-vous pas que la sortie, entre autres, de M. Jean-Marie
Ah oui, Le Pen... sur les origines hongroises de Sarkozy, je vais m'efforcer d'être bref, ça a pu être mal compris. En réalité, Jean-Marie Le Pen n'a pas voulu dire Nicolas Sarkozy n'est pas français, ou n'a pas le droit d'être député, ou n'a pas le droit d'être ministre. Ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen, mais reprenant sans agressivité ce que disait de lui-même Nicolas Sarkozy, qui se disait fier de ses origines immigrées. Cependant que à Libération, Madame, dans un numéro dont je peux vous donner les références, je ne les ai pas sur moi, Madame Sarkozy, quant à elle, s'est déclarée fière de n'avoir aucune goutte de sang français. Quant à ses origines, Monsieur Jean-Marie Le Pen a dit que ça ne qualifiait pas particulièrement Nicolas Sarkozy pour incarner la France. Parce que dans la fonction de chef de l'État, il y a un phénomène d'incarnation de l'identité nationale. Voilà. Alors, ça a pu peut-être être mal compris ou mal perçu par certains. Ça ne signifiait absolument pas que les Français originaires d'Europe centrale, orientale ou d'autres pays d'Europe n'étaient pas des Français à part entière. Mais être un Français à part entière, jouir de ses droits civiques, pouvoir faire une carrière politique, c'est une chose. Être le chef de l'État, c'en est une autre. C'est si vrai d'ailleurs que moi j'ai regardé un certain nombre de constitutions. Vous savez, même la constitution américaine, alors que la nation américaine s'est faite exclusivement par l'immigration exige, par exemple, que le candidat soit né sur place. Vous regardez la constitution tunisienne, pour être apte à être candidat à la présidence de la République tunisienne, il faut être tunisien d'origine, né de père tunisien, de mère tunisienne, et avoir ses quatre grands-parents tunisiens, et de surcroît, évidemment, de religion musulmane. Bon, voilà, il y a des conditions particulières qui sont exigées, dans un certain nombre de cas, pour être le chef de l'État. Je regrette que cette polémique qui était peut-être mal comprise.
Deux, trois questions,
voilà.
Bénédicte.
Une auditrice, remerciement à M. de Rostelan pour avoir invité le cœur bourgeois à Saint-Denis et M. Gollnisch, qui représente notre espoir. Nous avons pour lui une estime infinie. Nous n'entendons pas assez souvent parler de lui.
Merci pour ces paroles flatteuses, mais si vous m'entendiez peut-être parler plus souvent, un phénomène de lassitude finirait peut-être par s'installer.
Une auditrice, à propos de la liberté, y a-t-il liberté quand l'individu est conditionné comme il l'est dans notre société depuis son enfance, ce qui est grave?
Non, c'est vrai, il est certain que si je pense à mes professeurs de classe de philo, eh bien c'était davantage une éducation à la liberté. Quand je vois certains programme d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un endoctrinement parfaitement unilatéral.
Alors, un auditeur, la veille du premier tour, M. Le Pen, dans une conférence de presse, a confondu Hamas et Hezbollah. Cette confusion a été montée en éclat par RTL.
Oui, je ne sais pas, c'est possible, oui. Écoutez, ils sont extrêmement savants. Hein. Moi, je crois que Jean-Marie Le Pen est un des hommes politiques les plus cultivés de France. Il est capable de parler durant des heures sans notes. Il a une expérience historique, politique absolument incomparable que celui qui dont la langue n'a jamais fourché, en particulier dans les milieux médiatiques, lui jette la première pierre.
Une autre question vous est destinée, M. Gollnisch. Un auditeur, quelle aurait été, dans le contexte actuel, la réponse du Front National à une proposition du nouveau président d'accepter dans le nouveau ministère des membres au-delà des socialistes connus du Front National? Cette question difficile implique de la part des auditeurs une grande tristesse face à la réalité.
Il est de fait que l'ouverture que M. Sarkozy a faite est une ouverture à gauche. Il prend quatre socialistes. Il avait promis qu'il fallait rompre avec l'esprit de mai 68. Il a pris une figure emblématique de mai 68, ancien dirigeant de l'Union des étudiants communistes, ancien militant de la victoire communiste au Vietnam. Je veux parler de M. Kouchner. Bon, parce qu'on ne retient de M. Kouchner que son action au moment de justement des boat people, c'est-à-dire des malheureux réfugiés vietnamiens qui fuyaient le communisme.
Ou du sac de riz.
Bon, ou les sacs de riz en Somalie. Mais c'est un peu quand même, c'est tout à fait l'incendiaire qui ensuite joue aux pompiers. Je facilite la victoire des communistes et ensuite, ah pardon, je me suis trompé, je vais essayer de récupérer en mer de Chine ceux qui fuient le communisme. Bon, cette ouverture ne s'est pas faite à droite. Je pense que ça doit déciler les yeux de nos compatriotes. Le problème qu'il y ait des ministres Front National dans un gouvernement, j'espère bien que ça se produira un jour, et même peut-être que le Front National fera l'ossature de prochains gouvernements. On a vu des choses beaucoup plus surprenantes que cela dans l'histoire de France. Ce qui est important, c'est de savoir pour faire quelle politique. Parce que nous sommes quand même dans un domaine aujourd'hui de l'apparence. On nous dit qu'on va faire un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Aussitôt la gauche se met à hurler et un certain nombre de braves gens se disent « Ah quand même, bon, bah, ils ont du courage, là, à l'UMP, ils ont découvert le problème, enfin, ministère de l'identité nationale et de l'immigration, on va voir ce qu'on va voir. » Mais attendons de voir quelles sont concrètement les politiques qui vont être faites. Je vais prendre un exemple très concret. Il est parfaitement clair que si l'on n'instaure pas en France la préférence nationale, il n'y a aucune chance d'inverser le courant de l'immigration, parce que notre pays continuera d'être un miroir aux alouettes pour quantité de malheureux du tiers-monde, dont d'ailleurs le sort ne nous est pas indifférent. Je considère que comme tout à fait dramatique ce que vivent en ce moment les marins français de la frégate qui repêche à la mer les corps en état de décomposition de malheureux qui se sont noyés en essayant de gagner l'Eldorado, ce qu'ils croient être l'Eldorado européen.
Nous allons poursuivre dans un instant ces réflexions de fond et nous allons offrir une petite respiration du cœur montjoie Saint-Denis pour nos auditeurs.
Aujourd'hui, la Ligue noire vient se livrer à nos coups, à diverses nos avoirs, et la victoire est à nous. Triples yeux,
merci au cœur montjoie Saint-Denis de nous offrir ces chants extraordinaires.
Ça, c'est un extrait de l'album Vendée 1792-1796 qui s'intitule, qui est connu sous le nom de la Ligue Noire. C'est le chant des fantassins royalistes lyonnais. Donc, en présence de Bruno Gollnisch, qu'on arrive à sortir, trouver un lyonnais, ma foi, c'est assez conjoncturel. Cet album est préfacé par Jean-René Charbonneau, qui lui est vendéen, donc pour l'album de Vendée, ça s'imposait. Nous avions aussi, parmi d'autres albums non cités, on a un album sur les cavaleries, chants et sonneries, et le tout dernier qui tombait bien pour le pèlerinage de Chartres était les chants de pèlerinage à Notre-Dame, puisque parmi les différentes activités auxquelles se livre le cœur montjoie de tout ou partie, on va dire, le pèlerinage de Chartres depuis 25 ans a l'occasion de nous réunir, et on ne se limite pas à Chartres, puisque nous sommes allés à plusieurs reprises à Reims, à Vézelay, au Puy-en-Velay, au Mont-Saint-Odile, et c'est pas fini.
Alors j'essaie de trouver un commun dénominateur entre vous deux, Philippe Dounaïev qui vient de me répondre à l'instant, et Bruno Gollnisch.
Il y en a plusieurs.
Et j'en reviens au titre de Radio Courtoisie, la radio du pays réel et de la francophonie. Et les derniers développements de Bruno Gollnisch m'amènent à poser une question de philosophie politique. N'est-on pas actuellement dans un stade où nous voyons clairement une opposition entre le pays réel d'une part et le monde virtuel qui ne se réfère pas au pays et qui sort de la réalité? Est-ce que derrière cette non-compréhension même de style de campagne que nous avons connu récemment, cette référence à des valeurs qui sont finalement étrangères à ce qui est l'âme de la France, est-ce que clairement nous et cette apparition de Kouchner, qui est un personnage emblématique issu de mai 68, effectivement nommé par un président qui avait fondé sa campagne sur le rejet de mai 68, Bruno Gollnisch, j'aimerais que vous développiez, parce que ce qui fait la légitimité d'un combat politique, me semble-t-il, c'est avant tout de l'asseoir sur des convictions et sur un cadrage de philosophie politique et même de convictions morales et spirituelles.
Oui, je pense que vous avez raison. Ceci étant dit, il ne faut jamais désespérer. Je crois que les élections présidentielles n'ont pas répondu à notre attente, c'est évident, et Jean-Marie Le Pen, malheureusement, n'a pas reçu les suffrages que je crois méritaient son courage, sa clairvoyance, son expérience incomparable. Et je pense très sincèrement que les élections législatives vont être aussi difficiles. Quel est le fait principal? C'est que nous nous trouvons en face d'une concurrence, en quelque sorte, celle de Nicolas Sarkozy et aujourd'hui de l'UMP, d'adversaires ou de concurrents qui ont repris nos thèmes. Et c'est donc quand même une victoire dans les idées. Je préfère dire une victoire doctrinale plutôt qu'une victoire idéologique. Même si, là encore, évoquer nos thèmes du bout des lèvres, ça n'est pas évidemment appliquer nos solutions. C'est tout le problème. Mais il est de fait, par exemple, que l'actuel chef de l'État, qui, contrairement à ses engagements formels, va laisser reprendre à la fin du mois les négociations pour l'entrée de la Turquie, a été élu, contrairement à M. Chirac, avec des positions très fermes sur la suspension des dites négociations avec la Turquie. Que l'actuel chef de l'État, qui s'apprête à réintroduire par la fenêtre le traité de le constitutionnel européen que les Français ont chassé par la porte au moment du référendum, avait dit au cours de la campagne qu'il considérait cette constitution comme caduque. Sauf qu'on dit, bah, écoutez, la constitution, elle est caduque, je prends acte de la volonté exprimée par les Français, je vais juste faire passer par la voie parlementaire la partie institutionnelle du traité. C'est se moquer du monde, puisque la partie institutionnelle du traité, c'est la Constitution européenne.
Ça ne voulait pas.
Bon, mais je pourrais multiplier les exemples. Il ne reste pas moins que ce que je constate, c'est que nous avons imposé nos idées, nous avons imposé nos thèmes. Je crois que les victoires de cet ordre préparent des victoires politiques.
C'est également ma conviction. Bénédicte, pendant ce temps-là, de nombreux messages ont arrivé. Bruno, je vous propose de laisser Bénédicte lire au moins 5 messages consécutivement et vous répondrez à ceux que vous souhaitez, car le temps avance.
Voilà, un auditeur, encore une fois, la représentation proportionnelle connue comme la mixité ne résoudront rien. Le problème est un problème lié à la concentration du pouvoir central qui veut s'occuper de tout dans le détail.
Oui, j'ai pas répondu à cette question tout à l'heure, effectivement. Je vais y répondre, oui.
Le problème de l'ENA, c'est que pour avoir une chance de passer, il faut avoir du piston. Et ce n'est pas une référence de sortir de cette école.
Autre question.
Une autre question. Monsieur Gollnisch, ne pensez-vous pas que l'avenir du Front National dépendra essentiellement de sa capacité à comprendre que son électorat naturel n'est pas le peuple de droite, mais celui d'en bas? Entièrement d'accord avec M. de Benoît lorsqu'il dit « Nous devons contribuer à ce qu'il devienne une force de transformation sociale à laquelle puissent se reconnaître des couches populaires au statut social et professionnel, précarité et au capital culturel inexistant, y compris ceux qui ne votent plus. » Excusez-moi. Un autre auditeur, je voudrais savoir où et quand M. Sarkozy a fait son service militaire. A-t-il fait son service comme M. Arnaud Kalkfeld? Et une auditrice, un auditeur a déclaré que le Front National était le seul à défendre la vie. C'est complètement faux. Le seul à participer à la manifestation du docteur Dor contre l'avortement était M. De Villiers. Lors d'une émission, il a déclaré qu'il abrogeait la loi Veil. Ce n'est pas le cas du Front National.
Quelques questions provocatrices, là, Bruno.
Non, mais c'est tout à fait naturel. Alors, en ce qui concerne la concentration du pouvoir, je pense qu'il faut que l'État exerce un certain nombre de responsabilités, surtout dans le contexte actuel, le contexte du mondialisme. Nous avons besoin d'un État protecteur de la nation. Mais, bien sûr, l'État doit respecter les corps intermédiaires, respecter les personnes, respecter les familles, et leur laisser l'exercice de ce qui les concerne au premier chef. Mais l'État ne peut pas se désengager de tout. Et je pense que, par exemple, en matière économique, il faut faire à peu près le contraire de ce que l'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il faut restaurer les libertés économiques, les libertés d'entreprendre, il faut alléger la fiscalité, il faut alléger les contraintes bureaucratiques qui sont considérables, mais l'État a le droit, et je crois le devoir, par exemple, d'ériger des protections douanières raisonnables pour compenser le véritable dumping social que représente une concurrence faite par des pays communistes comme la Chine, qui sont en fait des paradis pour le capitalisme le plus cynique. Ma conception du rôle de l'État, et il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce sujet. En ce qui concerne l'ENA, le piston, ça n'est pas évident, peut-être que le piston sert pour l'ENA, mais il y a un milieu culturel. Il est certain que des fils de hauts fonctionnaires ou de personnalités politiques qui sont nourris en quelque sorte, élevés dans le sérail, ont davantage de chances. Ceci étant, il y a des gens de milieux très modestes qui parviennent à l'école l'École nationale d'administration. Encore une fois, ceux qui critiquent l'École nationale d'administration seraient, pas toujours, mais très souvent, très contents que leurs enfants y entrent. Pourquoi ? Ben parce que c'est devenu le mode d'accès à des fonctions assez prestigieuses, des fonctions publiques assez prestigieuses. Je crois que, il faut revenir à des concours particuliers. Les concours d'autrefois, si on a du goût pour la carrière préfectorale, eh bien il faut qu'on fasse un concours qui soit adapté à la vocation de préfet. Si on a du goût pour la diplomatie, pour les affaires étrangères, si l'on veut voyager, si l'on veut représenter la France en Afrique, en Asie, en Amérique latine, eh bien il faut passer un autre concours. Et à partir de ce moment-là, on aura des corps particuliers, un peu comme les militaires. Et les militaires, si vous voulez être militaire dans la marine, vous faites l'école navale. Si vous voulez être militaire dans l'armée de terre, vous faites Saint-Cyr. Si vous voulez être officier dans l'armée de l'air, vous faites l'école de Salon de Provence. Et puis ensuite, vous faites d'abord une spécialité. Et puis quand vous montez en grade, à la fin, vous faites l'Institut des hautes études de défense nationale, où vous retrouvez des gens d'autres formations. Troisième question, c'est sur l'avenir du Front National, que cet avenir est dans, si j'ai bien compris, dans le social. Oui, je me suis efforcé hier d'ailleurs au micro de Madame O'Krent et de Monsieur Julie de le dire à Laurent Fabius, qui en était tout à fait surpris, qu'il y a une droite sociale. Et en particulier, nous nous considérons comme les héritiers de cette droite sociale du 19e siècle qui, par un certain nombre de mesures, c'est la première penchée sur ce qui était la misère de la classe ouvrière à l'époque. En ce qui concerne le service militaire de M. Sarkozy et celui de M. Klarsfeld, je crois qu'il y a une différence très importante, parce que M. Sarkozy, d'après ce que je crois savoir, a fait son service militaire en France. La preuve, c'est qu'on a retrouvé son caporal instructeur. Bon, alors, très bien, c'est d'autant plus méritoire qu'à l'époque où il l'a fait, l'armée exemptait la moitié, si ce n'est les deux tiers, d'une classe d'âge.
Et puis il n'a pas la double nationalité.
En ce qui concerne, voilà, il n'a pas la double nationalité. En ce qui concerne M. Klarsfeld, c'est beaucoup plus contestable, parce que M. Klarsfeld a demandé, d'après ce que je crois savoir, d'après ce qui figure dans sa biographie sur Internet, il a demandé et obtenu la nationalité israélienne, et il a porté l'uniforme, notamment dans en Palestine occupée. C'est peut-être un choix personnel, après tout respectable, mais ça ne le qualifie pas à ce moment-là pour exercer des fonctions gouvernementales ou paragouvernementales en France. Moi, je considère que l'obtention volontaire d'une nationalité étrangère devrait automatiquement faire perdre la nationalité française. C'était le cas autrefois dans notre droit et cela doit redevenir le cas. Il est absolument ahurissant que quelqu'un qui, par une démarche personnelle volontaire, je ne dis pas quelqu'un qui a hérité à la naissance de la nationalité de sa mère, par exemple, ou d'un père étranger. Non, quelqu'un qui, par une démarche volontaire, acquiert une nationalité étrangère, il devrait ipso facto perdre la nationalité française. En ce qui concerne la marche sur la vie du docteur Dor, Monsieur de Villiers a pu y participer. Je crois que les positions de Monsieur de Villiers sont en réalité très modérées en ce qui concerne la loi Veil, ou s'il s'est converti à son abrogation. C'est une conversion extrêmement récente, mais il a participé à la marche sur la vie, mais plusieurs personnalités du Front National y ont également participé, et notamment Monsieur de Rostolan, ancien député du Front National, ici présent, notre vice-présidente Martine Le Hideux, et bien d'autres encore.
Alors, quelques autres questions, Bénédicte.
Une auditrice. Monsieur Sarkozy va vendre la France au gouvernement mondial. L'immigration choisie s'ajoutera à l'immigration d'assistance pour baisser les salaires.
Oui, c'est évident. Et l'immigration choisie, c'est une façon de baisser, de jouer à la baisse sur les salaires des gens les plus qualifiés. Quand j'ai ici la citation, par exemple, de Nicolas Sarkozy qui dit que on peut faire venir des ingénieurs ou des informaticiens d'Inde ou de Chine parce que ça ne fera pas obstacle au développement de ces pays, répondant d'ailleurs à une critique qu'on lui avait faite, et qu'il n'est même pas nécessaire, d'ailleurs, que dans ces conditions pour leur donner de visa qu'on exige qu'ils repartent ensuite dans leur propre pays, bien, nous pensons, nous, que si la France a besoin d'informaticien ou d'ingénieur, il faut qu'elle les forme dans sa jeunesse. Voilà, j'ai la citation à l'Assemblée nationale le 2 mai 2006 de M. Sarkozy. Pour le dire autrement, accueillir en France quelques ingénieurs chinois ou informaticiens indiens ne va certainement pas ralentir la croissance phénoménale de ces deux pays les plus peuplés de la planète. Je ne vois donc pas au nom de quoi il faudrait s'interdire de recruter en France des ingénieurs chinois, et il n'est nullement besoin de conditionner ce recrutement à retour des ingénieurs en Chine après quelques années de séjour en France. Eh bien, nous croyons que c'est au nom de la préférence nationale et de la préférence pour nos techniciens, nos ingénieurs et notre jeunesse qu'il faut précisément s'efforcer de trouver en eux les ressources dont nous avons besoin.
Un auditeur, M. Gollnisch, trouvez-vous normal de choisir un garde des Sceaux ayant une double nationalité ? D'une part, d'autre part, avec une double nationalité, on est forcément un pour ou l'autre juge est parti.
Un jour ou l'autre.
Oui.
Un jour ou l'autre juge.
Alors, c'est le cas de Mme Rachida Dati. Je fais une différence entre le cas de M. Klarsfeld et le cas de Mme Rachida Dati. Pourquoi ? Parce que dans le cas de M. Klarsfeld, c'est l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère. Bon. Et ça devrait faire perdre automatiquement la nationalité française. Dans le cas de Mme Dati, si elle a la double nationalité, c'est parce que le Maroc continue à la considérer comme si. Et ceci, quelles que soient les démarches qu'elle peut faire à titre personnel. Alors, moi, ce que je crois et ce que nous avons proposé, ce que j'ai proposé personnellement au nom du Front National, dans un projet de révision de nos lois sur la nationalité, qui sont maintenant incorporées dans le Code civil, c'est qu'il soit demandé aux personnes qui ont plusieurs nationalités de faire une option. Mais on ne peut pas véritablement leur en vouloir si, ayant fait clairement une option en faveur de la nationalité française, leurs états d'origine ou l'état d'origine de tel ou tel de leurs parents s'obstinent à les considérer comme un national. C'est mon point de vue personnel.
Bon, une auditrice, M. Gollnisch, dansera-t-il avec nous le 21 juin ?
C'est... À la fête de la musique.
Malheureusement, ou heureusement, heureusement, je suis pris ce jour-là par les feux de la Saint-Jean que nous organisons à l'intention de nos amis du département du Rhône chez monsieur et madame de Pinfantenio. Mais je pense qu'on passera certainement décédé des chœurs Montjoie-Saint-Denis.
Une auditrice. Le seul et vrai problème est la politique économique, le premier des pouvoirs qui n'est même pas inscrit dans la Constitution. La France est sous tutelle économique. On a perdu notre souveraineté et personne n'en parle, même pas le Front National dit patriote.
Je ne suis pas d'accord tout à fait avec cette auditrice. D'abord, quand elle dit que le seul problème est le problème économique, non, le seul problème n'est pas le problème économique. Il y a le problème culturel, le problème spirituel, le problème de l'identité, le problème politique, le problème démographique, la famille, les valeurs, les traditions, qui ne sont pas en eux-mêmes des questions économiques, sont aussi extrêmement importantes. Mais c'est vrai qu'il y a une dépendance économique et financière de notre pays qui est très grave, et deuxième désaccord, en toute sympathie avec cette auditrice, nous en parlons. Nous avons été les seuls, je crois, ou les principaux, si ce n'est pas à dire, par exemple, que nous voulions récupérer notre autonomie financière par rapport à la Banque Centrale Européenne, et que si nous ne l'obtenions pas de la part de nos partenaires européens, nous étions prêts à sortir de l'euro. Nous avons critiqué la monnaie unique en disant que l'on pouvait très bien se satisfaire dans les transactions internationales du système antérieur, c'est-à-dire d'une monnaie commune qui était l'écu, sans qu'elle fasse disparaître les monnaies nationales. Par conséquent, nous sommes très conscients des problèmes que pose à la France une dette dont les intérêts équivalent pratiquement à ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Nous sommes tout à fait hostiles à la dictature de la finance anonyme et vagabonde et telle qu'elle se pratique aujourd'hui, à la liberté qu'ont les fonds de pension américains de racheter par pans entiers l'industrie française et ensuite de la vendre par appartement dans un but de souci immédiat. Nous avons dit ces choses-là. Et si cette auditrice ne l'a pas entendu, ben je suis heureux de le redire au micro de Radio Courtoisie.
Je voudrais me retourner vers Philippe Dounaïef. Nous avons d'autres messages, mais j'aimerais que Philippe Dounaïef nous donne un petit peu son, son sentiment avec son point de vue de quelqu'un qui contribue au cœur mongeur Saint-Denis, qui est très soucieux de cette âme française. Mon cher Philippe, comment vous ressentez cette discussion et le fait que Bruno n'ait écarté aucune des questions, y compris celles qui pouvaient être un peu provocatrices?
C'est vrai que Bruno ne s'échappe pas devant les questions difficiles, n'est pas une grosse surprise. Ça serait bien la première fois que je le vois faire ça. Mais tout à l'heure, vous abordiez le problème de la virtualité de la campagne, ce qui personnellement m'a sauté aux yeux, non pas en tant que chanteur et pianiste et popotier du Cœur Mongeur Saint-Denis, mais en tant que citoyen pas totalement lobotomisé, un peu quand même, mais des petits moments de conscience. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'était la maîtrise par notre nouveau président élu des médias. À savoir que ce qui était très manifeste, c'était
les nouvelles technologies.
Tout ce qui était effectivement nouvelles technologies, et au niveau de son entourage, on cite beaucoup Rothschild, Lagardère, Arnaud, enfin je ne les connais pas tous, mais disons les grands patrons de presse, ce qui ensuite permet d'avoir une jolie photo en première page de Paris Match, ou VSD, ou enfin je Libération, peu importe.
Monsieur Benhamou qui devient le conseiller culturel à l'Élysée, qui était l'ancien patron de Globe.
Pour bête. Et moyennant quoi, ce qui était très très net, c'est la maîtrise de cette virtualité, ce qui permet effectivement de faire passer un message beaucoup plus facilement. Et ensuite, quand on voit la puissance aussi des journalistes ou des conjoints de journalistes au niveau de la nouvelle équipe gouvernementale, manifestement, c'est ce qui a permis, selon toute ressemblance...
Hier, par exemple, Mme Kouchner recevant Bruno Gollnisch à son émission...
Voilà. Très bon exemple.
Mme Kouchner, qui est d'ailleurs... Mme O'Krent, excusez-moi, qui est belge, qui n'est pas française, qui est belge.
Il y a Mme Borloo, qui n'est pas loin non plus.
Oui.
Si on cherche un petit peu, on voit qu'il y a cette ingérence très très nette du quatrième pouvoir, et chose qui a permis effectivement de grappiller dans le programme du Front et de vider, d'essayer de vider la coquille. Sauf que c'est toujours pareil, on avait utilisé dans le temps l'image du Canada Dry, et entre le facsimilé et l'original, on aurait pu imaginer que les électeurs eussent préféré choisir SAS. L'original, ça n'a pas été le cas cette fois-ci.
Choisi la contrefaçon.
Voilà.
Et oui, parce que ça coûte moins cher, mais c'est de moins bonne qualité.
Alors je me retourne précisément vers Bruno Gollnisch, il nous reste maintenant 4 minutes, et la question est la suivante, cette notion d'identité à laquelle nous sommes très attachés, on a essayé de remettre les questions dans l'axe du pays réel tout au long de cette émission, en regard d'un monde en opposition d'un monde virtuel. Est-ce qu'il n'y a pas eu également, au préjudice du courant que vous représentez, une non-compréhension, parce que au moment où certains se déguisaient en FN, on a pu considérer que l'image du front avait elle-même été déguisée plus ou moins, non pas en UMP, mais tout au moins affadie ou perdue l'identité telle qu'elle était perçue par l'électorat?
Oui, bien sûr, mais ceux qui disent cela, je leur souhaite bien du plaisir quand ils vont chercher des définitions de l'identité nationale chez nos concurrents. Hier, Monsieur Fabius en a donné une définition qui pourrait convenir à n'importe quel pays au monde, et même Monsieur Hortefeux, donc qui était un collègue courtois au Parlement européen, a donné de l'identité française une définition qu'il a prise dans la Constitution. La France est une république laïque, indivisible, démocratique, etc.
Ça
peut être le cas de 50 pays dans le monde. Je considère personnellement que la France, l'identité française, elle n'est pas réductible à celle d'autres nations. Serait-elle aussi sympathique que l'Italie, l'Espagne ou les Pays-Bas? Nous sommes une nation européenne d'abord, majoritairement, essentiellement celtique, latine et germanique. Germanique par les Francs, auxquels nous devons notre nom, celtique et latine par le fond gallo-romain, que la fusion de ces deux composantes, elle s'est faite à l'occasion du baptême de Clovis. Par conséquent, c'est une fusion qui s'est faite par cet acte, en quelque sorte mystique, qui est devenu symboliquement le premier sacre des rois de France, et c'est la raison pour laquelle il a eu lieu à Reims, que nous avons une civilisation tout à fait fait original et exceptionnel, qui fait bien sûr partie de la civilisation européenne, qui est profondément marqué par l'héritage gréco-latin, par la spiritualité chrétienne, et que nous avons en outre été marqué par notre situation géographique, c'est-à-dire un accès aux trois mers du nord, Atlantique et Méditerranée, que n'ont pas les autres pays européens, et qui a déterminé une aventure maritime exceptionnelle, qui nous a valu des missionnaires, des pionniers, des découvreurs, et qui nous vaut encore le troisième domaine maritime du monde. C'est là sans doute que se situent des perspectives exceptionnelles, si l'on veut bien les mettre en valeur pour les générations françaises futures. C'est tout cela et beaucoup d'autres choses. J'ai certainement oublié beaucoup d'autres choses que l'identité française.
Eh bien, mon cher Bruno Gollnisch, un grand merci. J'ai été très heureux de vous associer aux travaux, à l'espérance, à la foi du cœur Montjoie Saint-Denis. Je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie y ont été extrêmement sensibles. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, appuyez le cœur Montjoie Saint-Denis. Soyez assurés que le cœur Montjoie Saint-Denis fera tous ses efforts pour appuyer également Radio Courtoisie. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, j'aurai plaisir à vous retrouver dans 4 semaines.